J'ai le grand plaisir d'accueillir Jacques Munier. Bonjour Jacques.
Bonjour Clara, Clara Lecoq-Réal. Plaisir partagé. Bonjour à toutes et à tous.
Jacques, vous nous revenez en pleine forme pour votre journal des idées. Un journal consacré ce matin au grand débat national, à la Convention citoyenne pour le climat, au comité d'éthique, aux états généraux de l'éducation. Des moments où les citoyens sont de plus en plus invités à prendre la parole. Mais pour quel résultat, Jacques?
Eh oui, nous serions entrés dans l'ère de ce que Paul Valadier désigne dans un ouvrage récent comme le débat permanent, procédé dilatoire ou manœuvre destinée à reporter sur la société civile la responsabilité d'un choix délicat comme en matière de bioéthique ou de fin de vie. Le philosophe dénonce le recours immodéré aux commissions spéciales comme un recul de la décision politique. La langue est la meilleure et la pire des choses, disait Ésope. C'est le lien de la vie civile, l'outil de la raison et de la science, mais c'est aussi la cause de toutes les disputes, la source de la calomnie et du mensonge. Le site d'information Les Jours a entrepris de décrypter la communication politique de l'Élysée en temps de crise sociale et notamment les fameux éléments de langage fournis clé en main à destination des journalistes. Le 5 décembre, journée de manifestation et de forte mobilisation en France contre la réforme des retraites, la communication du palais laissait filtrer cette information essentielle. Emmanuel Macron se dit calme et déterminé. Raphaël Garrigos et Isabelle Robert rappellent que dans la doctrine élyséenne, ce sont les guillemets qui authentifient la citation et les propos, mais depuis lors, il y a eu un mais, le guillemet gate. Le 18 décembre, le conseiller com du président lâche qu'Emmanuel Macron est, ouvrez les guillemets, disposé à améliorer le projet présenté par son premier ministre. Une phrase qui s'est répandue comme une traînée de poudre et qui plaçait le chef du gouvernement en fâcheuse posture, ce que l'intéressé n'aurait guère apprécié. Du coup, abandon des guillemets, fini de sourcer selon l'Élysée et pas de bandeau sur les chaînes info. Les éditions Alia viennent opportunément de rééditer l'ouvrage d'Éric Chauvier intitulé « La crise commence ou finit le langage », augmenté d'un chapitre sur les réseaux sociaux. D'abord publié à l'issue de la crise financière de 2008, le livre dénonçait le caractère intimidant de certains mots comme celui de crise, que l'on prononce pour décourager toute tentative de compréhension de ce qu'il recouvre. Comme tous les mots pétrifiés, ils alimentent une rhétorique de l'urgence destinée à nous faire accepter l'inacceptable. L'anthropologue utilise les ressources de la pragmatique du langage, l'étude des interactions produites dans l'échange verbal. Pour tous ces termes techniques qui permettent de se payer de mots grâce à l'autorité qu'ils confèrent, même si leur aptitude à décrire et analyser se révèle faible. Il faudrait rendre grâce à la science d'avoir dispensé avec autant de générosité son langage conceptuel, de l'avoir fait choir de ses tours d'ivoire pour guider les âmes errantes, observe-t-il dans un autre livre au titre éloquent, « Les mots sans les choses ». Riche de tant de citoyens éclairés, la démocratie ne pourrait que mieux s'emporter. Mais loin de l'Éden de lumière attendue, il lui faut au contraire y reconnaître le point culminant d'un état d'aliénation généralisée qui soutient la démocratie comme le Kudjat porte l'aveugle dans une forêt en feu. À propos des réseaux sociaux, Éric Chauvier souligne la concomitance de leur essor avec la crise de 2008. Face à l'éther glauque désigné du mot de crise, un processus cognitif et langagier serait-il à l'œuvre? La hausse vertigineuse des abonnés à Facebook ou Twitter depuis lors illustrerait selon lui l'expression d'un état de malaise généralisé qu'on aurait fait passer pour de la communication, une communication reposant sur les répliques algorithmiques de nos profils. Je cite, les individus productifs communiquent avec une assurance illimitée qui ne s'inspire plus de leur moi singulier, mais du modèle des identités stables et immuables que l'on trouve sur les réseaux sociaux. D'où la nécessité impérieuse de se réapproprier le langage. La dernière livraison de la revue Effeuillage, consacrée à l'analyse des médias et animée par des étudiants du CELSA, porte notamment sur les voix douces ou rauques, atypiques et uniques, qui ouvrent la voie à une relation particulière avec les auditeurs et les auditrices. Comment le grain d'une voix peut-il faire la couleur d'une radio ? Laura Frémy analyse la fabrique d'un phonostyle radiophonique féminin dans les années 70, avec la bonne fée des automobilistes dans les bouchons, notre consoeur Fip, une voix en mini-jupe, intime et rieuse, un mélange de charme, d'ironie et d'autodérision, selon Chris Graffiti, l'émergence des podcasts natifs avec des voix alternatives, dissonantes, minoritaires et engagées, confirme aujourd'hui pour Mathilde Vatkan que le média radio audio permet un traitement différent des sujets par rapport au caractère instantané de la télévision et de l'image. Conclusion, le long terme ne peut être géré que par le langage.